Bonjour mes frères et sœurs, je vais lire avec vous Apocalypse chapitre 1 et verset 16 à 17. Apocalypse chapitre 1 verset 16 à 17. Je lis. Dans sa main droite, donc la main de Jésus, il tenait cette étoile, de sa bouche sortait une épée affilée à double tranchant, et son visage ressemblait au soleil qui brille dans tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi et me dit, « N'aie pas peur, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, mais regarde, je vis maintenant et pour toujours. Je détiens les clés de la mort et du Shéol. » Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour chacun de nous et nous éclaire. Nous avons tous des épreuves, c'est normal, c'est normal. Alors, voyons un peu tout ça. Au commencement, la Bible nous dit, au commencement était le Verbe. Le Verbe, c'est la parole. Jésus a dit, je suis la vérité. La parole est la vérité. La parole qui sort de la bouche de Dieu. L'épée sortait de sa bouche, n'est-ce pas? Et tout homme doit vivre, non pas de pain seulement, mais aussi surtout de la parole de Dieu. Jésus est lui-même l'épée, parce qu'il est Dieu, il est divin. Et il est la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est clair. La parole est la vérité, elle tranche. Elle tranche l'erreur vers le bas et vers le haut. Parce que l'erreur est sur la terre, mais elle est aussi dans les lieux célestes, là où sont les dominations, les autorités démoniaques. Et vous savez, c'est une lame brillante qui frappe la fraude et le mensonge. Pas tout de suite, mais elle frappe. Vous avez des esprits rebelles qui sont dans les hauteurs, dans ces dimensions, dans les lieux célestes, comme dit la Bible, qui poussent depuis en haut des humains faiblards, ou un peu idiots. Pardon, mais ça existe, hein, et qui se laissent influencer. Ce sont souvent des esprits très religieux qui pratiquent ce que j'appelle la masturbation spirituelle, c'est-à-dire qu'ils se font plaisir à eux-mêmes avec toutes sortes de trucs, mais ils servent en fait à rien du tout, et ça ne fait du bien à personne. Ce sont les pharisiens, par exemple, ou alors Hitler. Hitler, c'était un espèce de mystique, vous savez. Faire attention avec les mystiques, les religieuses, des gens vraiment bizarres. Des gens qui font une fixette, n'est-ce pas, sur ce que les mauvais esprits leur présentent comme la vérité. Alors ils croient, n'est-ce pas, des trucs invraisemblables. Mais cette vérité ne porte que du mauvais fruit. C'est à ça qu'on s'aperçoit que, assez rapidement, mais pas toujours, hein, des fois ça peut être long, c'est sournois. Mais quand même, l'épée de l'esprit finit par frapper, elle purifie. Elle le fait dans le silence, c'est pas une mitraillette, hein. C'est une épée. Ça coupe la tranche, terminé. Et elle agit dans le silence, c'est une parole qui agit dans le silence, mais dans le silence de sa lucidité invincible. Elle agit en silence, elle frappe en silence, l'épée s'abat soudainement, sans bruit, et elle tranche. Alors le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse nous montre le mensonge dévoilé. C'est la vision divine que Dieu donne aux siens, il ne la donne pas aux autres, les autres n'y comprennent rien. Et puis, c'est normal, parce que de toute façon, c'est une lettre qui nous est adressée, elle n'est pas adressée à tout le monde. Tout le monde peut la lire, mais voilà, ça n'intéresse que ceux qui sont appelés. Et le livre de la Révélation nous dit que la bête, le mensonge, ne fut plus trouvée. Soudainement. Et c'est un peu comme si la bête, le mensonge, tout ça, ça n'avait jamais existé. Et ça doit nous rassurer, mes frères et sœurs. L'erreur, le mensonge, l'illusion des victimes du diable, tout ça, ça disparaît dans un souffle, l'épée qui tranche. Et tout est remplacé par la vérité. Alors, plus de discussion, plus d'explication, plus de « Ah, mais je pensais, ah, j'avais cru comprendre que, ah, mais il m'avait laissé, oh, je pensais que tu voulais me laisser comprendre que... » Stop! Plus de discussion, plus d'explication, parce que plus de dualité. On est en route vers ce nouveau monde où il n'y aura plus de dualité. Notre démarche d'aujourd'hui nous conduit à ça. C'est une démarche de dévotion, sans égoïsme, sans orgueil. Nous savons que ça sera comme ça, sans dualité, et nous sommes appelés à apprendre ici-bas à vivre comme cela déjà maintenant, sans cette dualité. Les nations et leurs valeurs, les rois de la terre et leur gloire, ne pourront pas entrer dans la cité sainte, parce que le mensonge et l'illusion du moi qui ramène tout à soi, ça n'entrera pas dans la cité sainte. Il y aura d'autres degrés de gloire, mais pas dans la cité sainte. Ce qui entre dans la cité sainte, c'est ce qui a été transfiguré. L'épée à double tranchant, c'est la discrimination divine. Elle nous instruit sur tous les degrés de notre vie, de notre être. C'est une parole, l'épée est la parole. C'est une parole qui ne discute pas avec Jésus. On n'interprète pas ce qu'il dit. Elle place cette épée, cette parole, cette personne, Dieu, sur notre chemin, les difficultés nécessaires afin que nous les surmontions ensemble. Parce qu'il est avec nous. Il porte le joug avec nous. Et alors, notre démarche devient divinement ardente, puisque lui, ses pieds sont comme de l'airain ardent, et bien les nôtres dans la marche se transforment, transfigurent, n'est-ce pas? C'est une démarche d'amour, où c'est Dieu qui fait, où c'est Dieu qui décide, où c'est Dieu qui sait, où Dieu est Seigneur, sur son trône, en nous-mêmes, mais sur son trône, il règne. Et il nous donne le vouloir et le faire. C'est pas de la magie, simplement il nous donne des ordres, et par le Saint-Esprit, il nous donne le pouvoir de faire ce qu'il dit. Il ne s'amuse pas à nous demander des choses qu'on ne peut pas faire. Si il y a un ordre qui vient et qui est impossible à faire, c'est pas Dieu qui vous demande. C'est clair? Ou alors il faut la foi. Il faut toujours être bien branché hein, pour savoir discerner. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est le diable? Est-ce que c'est ma chair? Alors, à ce point-là, Dieu nous veut. À quel point? Au point où notre cœur, notre centre, notre être est vraiment le siège de son royaume. Et c'est là ce qu'il veut être, notre roi, un roi. Et c'est pourquoi il nous demande l'intégrité, la soumission. Alors, j'ai souvent donné des définitions de l'intégrité, et je voudrais vous en donner encore une autre aujourd'hui, qui est un peu plus frappante encore. L'intégrité, ça signifie être conforme à notre origine, semblable à ce que nous avons été au départ. Si vous êtes un fils de Dieu, eh bien, manifestez que vous êtes un fils de Dieu. Et restez comme vous étiez quand vous êtes converti. C'est l'apôtre qui le dit. C'est même un peu choquant parce qu'il dit aux esclaves, si vous êtes esclaves, restez esclaves. Ce qui importe, c'est de faire la volonté de Dieu, de suivre Dieu. C'est Dieu qui conduit toutes choses et qui fera le mieux pour vous. Alors nous sommes nés de Dieu, nous avons à demeurer ce que lui, il nous a fait. Ce qu'il a fait de nous. Alors quoi qu'il se passe, quoi qu'il puisse arriver, si nous sommes intègres, c'est-à-dire si nous sommes conformes à notre origine, eh bien, cela nous permet de faire un pas. Un pas qui permet une transformation intérieure, qui elle-même, cette transformation intérieure, permet un soulagement dans l'épreuve, et finalement, une certitude. Dieu intervient toujours, discrètement, mais fortement. La parole, c'est comme le sang, c'est Dieu, c'est vivant. Il y a deux faces. Il y a une face qui se présente contre les Égyptiens, vous vous souvenez l'histoire sur le sang sur les portes des Juifs. Et puis il y a une face qui se présente pour les intègres. Donc le sang est pour ou contre. L'épée est à double tranchant aussi. Et puis comme chacun de nous y a de l'imperfection, l'épée doit aussi de temps en temps, nous frapper, nous émonder, couper des trucs, couper des choses, couper des relations aussi. Il y a des relations toxiques. Souvenez-vous de l'ancienne alliance dans l'Ancien Testament, il nous est souvent parlé de fléau. Les plus jeunes ne savent pas trop ce que c'est. Le fléau, c'est un grand bâton avec une chaîne ou une lanière de cuir, puis un bâton plus petit. Puis avec ça, les paysans frappaient le blé. Et il faut battre le blé, et Jésus vient avec son fléau à la main, c'est Jean-Baptiste qui le dit, et tout en nous doit être battu par le fléau. Tout, notre conscience, notre raison, notre vie tout entière. Tout cela a besoin d'être touché fermement et soudainement par la vérité pour que nous puissions agir, réagir, avancer. Le blé, c'est joli, mais tant qu'il y a encore la balle autour du grain de blé, ben c'est pas encore ce que Dieu veut. Le grain de blé avec la balle autour, ça ressemble au grain de blé, mais c'est pas encore le grain de blé. Il faut enlever la balle, et ça, c'est le fléau qui fait. On frappe le grain, le fléau se détache, le vent souffle dessus, et puis cette balle, cette peau qui est autour du grain, elle a servi à quelque chose pendant un temps, mais pas de sentiment, virée au feu. La tige, la même chose, les feuilles, la même chose. Il n'y a que le grain, Dieu ne veut que le grain. Prenons un exemple au château. Qui avançait? Je vous le dis, mes frères et sœurs, toutes les prédications que vous pouvez entendre, ce n'est pas ça qui va vous changer. Ce qui va vous changer, ce qui me change moi, ce qui change tous les chrétiens, c'est un choc. Quand le choc vient de Dieu, il est vraiment salutaire. Et il vient toujours de Dieu, même si Dieu se sert du diable ou des gens. Quand le choc vient de Dieu, il est salutaire si nous le recevons comme tel. Parce que vous voyez, il y a des choses qui arrivent, des épreuves, des fléaux, des difficultés, et les chrétiens, la plupart du temps immatures, pensent « Ah, c'est le diable qui m'attaque, c'est les frères et sœurs qui m'attaquent, je ne suis pas compris, on se place en victime, c'est la faute de l'autre. » En fait, toujours, bien sûr, ça n'arriverait pas si Dieu ne le permettait pas, mais il faut qu'on aille à la source, c'est-à-dire à Dieu. Et si on va à la source, si on va à Dieu, si on se rend compte que c'est Dieu qui dirige tout et qui conduit tout et qui permet toutes ces choses, alors on réagit bien. Qu'est-ce que ça veut dire, on réagit bien? Ben, on fuit la ville qui nous persécute. Ça, c'est biblique. Ou alors on se cache, comme l'a fait Jésus, hein? Et puis on attend la délivrance, elle vient toujours. Recevoir le choc est salutaire si on le reçoit comme venant de Dieu. Wow, c'est pas Dieu qui se salit les mains en frappant. Non, 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 non. Il fait faire le sale boulot par ceux qui aiment faire le sale boulot. Par les médisants, par les soupçonneurs, par les impurs, par... voilà, bref. Mais c'est quand même Dieu derrière qui fait que nous puissions être choqués afin de séparer la balle du bon grain, puis afin aussi de nous faire aller plus loin. Mes frères et sœurs, réjouissons-nous. Vous qui écoutez Internet, vous n'êtes pas au courant, mais dans la communauté, le vendredi soir, on se réunit et on étudie, et ça fait déjà plus d'un an qu'on étudie ce livre, un livre qui s'appelle « Histoire de l'Église dans la plénitude des temps ». C'est l'histoire de l'Église des saints des derniers jours. C'est un bouquin qui fait presque 646 pages. Il est énorme et c'est très intéressant. C'est pas seulement l'histoire des Mormons racontée par les Mormons, mais c'est historique et c'est une page de l'histoire de l'Amérique. Et ce soir, donc, dans notre étude, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y a deux dates. Il y a beaucoup de choses, mais là, ces deux dates m'ont frappé. La première date est celle de la création de la société de secours chez les Saints des Derniers Jours, qu'on appelle plus communément les Mormons. Ils ont une association de bienfaisance, comme nous, nous avons, c'est faisable. Eux, ils ont une association qui s'appelle la Société de Secours, qui est dirigée par les femmes. Et cette association a été créée, mise en place le 17 mars 1842. Mais quelque temps après, il y a un choc qui est arrivé dans l'église. Les saints ont dû quitter la ville où ils étaient, c'était la ville de Nauvoo. Ils ont dû fuir à cause de la méchanceté humaine de païens, de chrétiens baptistes et autres, et de rétrogrades aussi, d'apostats. Ils ont dû tout laisser, ils ont dû partir en fuyant vers l'ouest. Et ce n'est qu'en 1867, soit 25 ans plus tard, que l'organisation de la Société de Secours a été remise en vigueur. Pendant tout ce temps-là, je me suis dit, tiens, certainement les saints des derniers jours, ces chrétiens, ont dû se demander, mais qu'est-ce que Dieu fait? Mais pourquoi? Est-ce que c'était pas sa volonté qu'on crée cette société? Peut-être qu'il y a des gens qui ont pensé ça. Moi, j'ai pensé autre chose, je me suis dit, pendant ces 25 ans, ben les pauvres ont dû attendre le secours. Il n'y avait pas de secours qui venait de la part des saints des derniers jours pendant 25 ans. Est-ce que Dieu se moque des pauvres? Est-ce qu'il s'en fiche? Non, mais il sait très bien que des pauvres, il y en aura toujours. Vous voyez? Vous le savez, vous aussi, que les pauvres, il y en aura toujours. Est-ce que vous vous en fichez? Non, vous en fichez pas? Alors, envoyez des dons. Vous avez vu, sur la première page de Révélation Bible, c'est écrit « Faites un don ». Alors vous cliquez là-dedans, et puis vous vous laissez diriger, et vous allez tout comprendre comment vous pouvez faire des dons. Vous ne faites pas des dons pour moi. Moi, je touche ma retraite, je vis en communauté, je manque de rien, tout va bien, Madame la Marquise, grâce à Dieu. Mais c'est pour l'humanitaire, pour qu'on puisse faire de l'humanitaire, et particulièrement en Afrique. Quoi qu'on aide aussi pas mal de pauvres ici en France, mais bon, c'est pour de l'humanitaire. Alors n'hésitez pas, vous envoyez, vous allez... alors vous savez, il y a des gens, j'en vois quelques-uns, parce qu'on a les gens qui donnent, on voit leur nom. Alors on voit qu'il y en a quelques-uns qui donnent, qui se sont abonnés en quelque sorte. Tous les mois, ils envoient 10 euros. Mais c'est mieux que rien, 10 euros tous les mois qui est prélevé sur leur compte et qui part pour l'humanitaire. Vous pouvez mettre davantage, hein, c'est sûr. Mais si vous aimez ce qu'on fait, ben, prouvez-le. Faites quelque chose. Mais là, je suis en train de m'éloigner. Donc l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, et on voudrait bien que tout aille bien et que tout aille facile. Mais Dieu crée des chocs. Et puis ces chocs semblent tout détruire. Mais en réalité, le choc, il a une utilité, c'est de nous faire réagir. Et les Mormons sont allés de l'avant. Ils n'ont jamais été plus efficaces dans leur travail humanitaire avec la Société de Secours qu'après avoir été choqués. Ils ont mis 25 ans pour se remettre debout, mais maintenant ils font des œuvres extraordinaires. Si vous suivez un petit peu ce qu'ils font, c'est vraiment fantastique. Si les pentecôtistes en faisaient autant, ils pourraient peut-être se remettre à critiquer les Mormons. Alors, ne fixez pas votre regard sur le choc, sur le fléau, sur le coup d'épée. Le fléau, il choque dans un but, celui de séparer le bon grain de l'ivraie. Oui, bien sûr, que les méchantes personnes qui habitaient Nauvoo et les apostats se sont réjouis en voyant partir les saints. J'imagine, n'est-ce pas, ils sont allés dans leurs diverses églises et ils ont loué Dieu pour la victoire qu'il leur avait accordée, n'est-ce pas, de faire partir cette secte diabolique, sataniste de leur région. Cependant, qui c'est qui était victorieux en fin de compte? Les fondateurs, les gens mandatés par Dieu, pas la populace religieuse, pas la populace apostate, la populace manipulée par les mauvais esprits. Non. Alors soyez intègres, mes frères et sœurs, tels que vous étiez quand il vous a recréé. Restez tels que vous... Moi, je me suis converti avec Raphaël le Gitan. Je vous le dis souvent. Eh bien, j'ai été fidèle à Raphaël le Gitan jusqu'à mes derniers jours, jusqu'à ses derniers jours. Pour moi, je regardais cet homme comme... un modèle, comme un saint. Bon, pour lui, il n'était pas parfait, hein. Loin de là, mais c'était lui qui m'avait conduit à Jésus et j'avais un immense respect pour lui. Ça devient rare, ça. Ça devient rare. La parole, l'épée tranchante, ça touche tout le monde pour différentes raisons. Mais est-ce que vous pensez que les gens qui étaient avec Moïse, les Juifs, hurlaient de joie en entendant les pleurs dans toutes les maisons des Égyptiens? Non. Ils avaient un cœur normal et ça les touchait même si c'était les Égyptiens qui étaient leurs ennemis et qui souffraient. On ne se réjouit pas du malheur des autres. On ne peut pas se réjouir de l'action de l'épée contre nos ennemis. Mais cependant, on peut la souhaiter. Le bras du Seigneur se lève et fait justice aux siens. Pas pour détruire les autres, mais pour leur apprendre à vivre. Pour qu'ils changent, pour qu'ils se repentent. Vous voyez, beaucoup de gens se repentent et puis ça s'arrête là. Non, il faut faire une action après. Il faut essayer de réparer. Il faut faire quelque chose. La première action après s'être repenti, c'est de se faire plonger dans l'eau, immerger, au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. C'est ce que les premiers chrétiens faisaient. Aujourd'hui, il y en a plein qui pensent que c'est inutile, que ça ne sert à rien. Bon, ben d'accord, on regarde leur vie, puis on a tout de suite compris. Vous voyez, il faut obéir comme des enfants. La parole de Dieu, ce n'est pas une parole qui vient à nous pour discutailler. C'est oui et amen. Alors aujourd'hui, j'ai frappé un peu fort. Et puis je sais que Dieu va frapper encore. Mes frères et sœurs, vous qui êtes intègres, votre délivrance est proche. Notre délivrance est proche. Réjouissez-vous. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur d'inscrire en lettres de feu ces choses dans le cœur de chacun. Sois béni mon Dieu. Amen.